Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Et voilà, ce week-end des experts se poursuit en ce samedi 5 décembre 2020. Tout à l'heure, vous retrouverez Christian Ricca pour la forme et la santé. On parlera de la bonne posture à avoir lorsqu'on travaille et quand on télétravaille. Vous savez que le télétravail apporte son lot de problèmes importants au niveau du dos, au niveau des cervicales. Et on en parlera tout à l'heure avec Christian. On essaiera aussi de renforcer votre système immunitaire contre les infections virales. Et bien sûr, vos questions en forme santé tout à l'heure, donc entre 8 et 9. Mais dans l'immédiat, 7-8, c'est la maison. Et c'est avec Christian Pessé qui est là. Bonjour Christian.
Mais oui, je suis là. Bonjour mon cher François, comment allez-vous?
Écoutez, ça gaze, j'ai envie de dire.
Oui. J'étais sûr que vous alliez.
Voilà, comme ça elle est faite. Ça, on n'en parle plus, on referme le tiroir de la blague. Oui, non, plus sérieusement, on parlera tout à l'heure du chauffage gaz, Christian.
Oui, chauffage gaz, je le disais, on a parlé du chauffage électrique il n'y a pas très longtemps, donc il était légitime de parler du gaz. En plus, il y a eu quelques déclarations peut-être prématurées en tout cas, qui ont été faites sur des restrictions futures dans le neuf. Donc on va parler du gaz, on va faire un petit peu un panorama aussi. C'est quoi le gaz aujourd'hui? Combien de foyers chauffent au gaz? Quels sont les systèmes, les dispositifs? On va pouvoir faire un point complet avec Emmanuel Bavou qui appartient à la direction développement marché grand public, c'est ça?
Parfait, on accueillera notre invité tout à l'heure, Christian. On évoquera aussi le plomb dans la maison, alors que vous en avez dans l'aile.
Voilà, mais
c'est pas le même.
Mais dans la tête aussi. Enfin, faire attention quand. pour vous, quand on est corse.
Vous avez été victime de chasseurs, c'est ça?
Voilà.
Donc on parlera du plomb.
Du plomb, première étape. Le plomb dans la peinture et on parlera la semaine prochaine du plomb dans les tuyaux, si j'ose dire.
Très bien, ça sera le tube de l'hiver. Et on retrouvera aussi votre coup de gueule. Il a fallu 4 ans depuis cet écroulement d'un balcon à Angers pour qu'il y ait une petite avancée quand même.
Une petite avancée, mais les balcons continuent de tomber. On n'en parle pas beaucoup, mais il en est tombé, 190 depuis l'événement. Ouais.
On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas eu d'accident grave, on va dire. Grave,
et puis bon, ce sont les hasards aussi de la médiatisation. Et donc, on va voir qu'il y a une étude très sérieuse qui a été faite. On a mis 4 ans pour en aboutir. Mais est-ce qu'il va falloir encore attendre 4 ans pour que des propositions soient faites? On peut se demander.
Oui, voilà. Bon, on va en parler tout ça de tout à l'heure, hein, bien sûr. Et puis, je vous le rappelle, à tout moment, vous pouvez joindre Christian au 32-16, c'est le standard RMC. Évidemment, le 32-16, à tout moment, vous pouvez joindre notre expert maison. Amina vous attend. Vous avez aussi l'appli RMC Direct Studio. Vous nous posez votre question avec votre numéro de téléphone. Et puis, Christian, on peut vous retrouver aussi sur le site Renault Info Maison.
Oui, Renault Info Maison. Beaucoup de vidéos, d'interviews et puis plus de 800 fiches pratiques et techniques qui peuvent bien vous servir dans vos travaux de rénovation.
Parfait. Donc, vous pouvez continuer à suivre Christian donc sur le web. 7h11, et bien on attaque tout de suite avec le conseil béton de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pessé.
Et Christian, on attaque donc avec le plomb dans la maison. Quel risque et que faire si on en trouve?
Voilà, alors le plomb, il est susceptible d'être présent dans deux catégories, je dirais, d'équipements, les vieilles peintures et puis les canalisations d'arrivée d'eau. Arrivée d'eau, on en parlera la semaine prochaine. Alors, le plomb, c'est un métal lourd. Ça peut causer une maladie gravissime, le saturnisme. C'est une pathologie où ça est très grave. Je pourrais parler sous couvert de Christian Ricca, ça peut engendrer des troubles importants, certains qui peuvent être réversibles. Il y a l'anémie, des troubles digestifs, etc. Mais il y en a d'autres qui sont carrément irréversibles. Ce sont des atteintes au système nerveux central, des encéphalopathie.
Ah oui, voilà. Comme vous avez vu, quand vous l'avez dit d'un coup comme voilà, ça, c'est voilà, sorti.
Mais là, j'ai dû avoir un peu de plomb.
Un peu de plomb dans l'aile.
Voilà. On plaisante, mais oui. On l'intègre par contact buccal et par inhalation de particules dans l'air. Alors, le plomb dit à la céruse a été introduit autrefois dans les peintures pour ses qualités de résistance à l'usure, résistance physique, résistance à l'humidité. Il a donc été généralisé dans les on va dire dans les parties communes principalement, mais aussi dans les intérieurs, au niveau des parties basses des murs, qui étaient soumises donc évidemment des remontées d'humidité. Alors on réservait donc les peintures à cette partie de la maison parce qu'en plus c'est un produit cher. Dans les lambris également, enfin tout ce qui est en partie basse, notamment je le disais, des couloirs, des entrées, des escaliers, etc. Alors le risque, il concernait et il concerne encore aujourd'hui les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants qui passent dans un couloir ou qui jouent, vont passer les mains sur le revêtement, sur la peinture qui peut contenir du plomb, et puis ils vont porter les mains à la bouche, et puis portant les mains à la bouche, ils vont ingérer du plomb, ce qui évidemment est très préjudiciable. Alors le plomb, il a été interdit dans les peintures depuis 1949, donc c'est pas
il faut avoir de vieilles peintures à la maison.
Oui, mais donc ça veut dire que toutes les maisons qui sont antérieures à 49 et on va dire aller jusqu'en 55, hein, ouais, parce qu'il reste
des stocks, etc. On est quasi sûr qu'il y a du plomb dedans.
On est quasi sûr qu'il y a du plomb dedans.
D'accord.
Donc alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a repeint ces parties-là. On les a parfois doublées. Quand on les a doublées, il y a pas de problème. Quand on les a simplement repeint, il peut y arriver que les peintures s'écaillent et que du coup la peinture au plomb quelque part réapparaissent. Alors il faut faire attention aussi. J'ai parlé des enfants, mais des femmes enceintes aussi. Le plomb peut être transmis par le plasma au fœtus. Hein, donc il y a aussi des accidents. Et ces accidents, il y en a à peu près 500 tous les ans. Il y a 500 cas de saturnisme qui résultent donc de cette présence du plomb dans des peintures. Alors lorsque sont arrivés les diagnostics obligatoires, l'un des premiers, on est en 98, l'un des premiers, donc 50 ans après l'interdiction du plomb, l'un des premiers a été justement le diagnostic plomb dans la maison. Et lorsque vous vendez ou lorsque vous louez une maison aujourd'hui, il doit y avoir obligatoirement le diagnostic plomb. Et on verra que c'est vraiment extrêmement, extrêmement précis. Vous avez un petit appareil qui ressemble à un appareil, vous savez, nos petits pistolets pour
prendre la température.
Prendre la température, c'est pareil. Donc le diagnostiqueur se un peu partout dans la maison, ce sont des appareils à fluorescence X. Ça, c'est pour les spécialistes.
Hein. Et c'est là qu'on détecte. C'est avec ça qu'on détecte le plomb.
Avec ça qu'on détecte le plomb, y compris derrière des couches de peinture ou même un doublage. Alors après 70 ans après l'interdiction des peintures au plomb, certes, comme vous le disiez, il est rare d'en trouver directement, mais il y en a partout dans la maison. Vous allez voir, en plus, le diagnostiqueur va partout dans la maison. Il vous fait une liste qui peut faire peur. Bon, alors, faut quand même relativiser, évidemment. Mais il vous fait une liste complète en vous disant, il y en a là. Et si vraiment on est dans une situation de logement dégradé, de partie commune dégradée, eh bien, il y a une obligation de travaux qui consiste, je cite, à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés. Ça peut inclure aussi des travaux, par exemple, s'il y a des fuites d'eau, parce que évidemment tout cela peut ruisseler et dégrader un peu plus le revêtement. Si on est locataire, les travaux sont à la charge du propriétaire de toute façon, et même s'il est occupant, évidemment c'est le propriétaire qui est concerné. Alors la solution, elle est relativement simple, c'est recouvrir avec de bonnes peintures les parties qui pourraient être concernées. Ça peut être aussi de mettre du lambris. Alors je pousserai un petit coup de gueule, c'est dans les parties communes qu'on a le plus de chances d'en trouver, et c'est dans les parties communes que c'est le moins contrôlé. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on vend jamais les parties communes.
Ben non.
Donc, quand on vend son logement, il va y avoir un diagnostic plomb. Moi, je serais pour qu'il y ait un diagnostic plomb obligatoire, mettons tous les 5 ans, dans les parties communes, ou peut-être pas tous les 5 ans, mais en tout cas régulièrement, surtout dans les logements dégradés. Je vais vous dire aussi, donc je fais un teasing, comme on dit, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je parlerai du plomb dans les canalisations. Et là, il y a vraiment de quoi pousser un vrai coup de gueule.
Eh oui.
Parce qu'il y en a.
Ça a été interdit à partir de quand, ça, les canalisations en plomb?
Mais ça n'est pas interdit.
D'accord.
Ça n'est pas interdit. Okay. Ce qui est interdit, c'est un taux de plomb dans l'eau.
Ah oui.
D'accord. Vous voyez l'astuce? Alors, on dit que, effectivement, de facto, ça entraîne l'interdiction du plomb. Mais ça serait quand même mieux que tout bêtement, on dise. Mais ça
parce qu'il y a notre installation, et puis l'installation, on va dire, du public. Et voilà, des raccordements.
On en parlera
la semaine prochaine.
C'est pas à piquer des verres, comme on dit.
7h17. Mathieu est avec nous au 3216, Christian. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Bienvenue sur RMC.
Oui, je vous remercie d'avoir pris mon appel. J'ai une question alors qui concerne un chauffage par le sol, mais électrique. Alors le thème de la journée, c'est chauffage au gaz.
Oui, mais c'est...
Voilà, donc c'est un plancher chauffant électrique.
Oui.
C'est un plancher chauffant électrique qui date d'il y a 30 ans, avec un carrelage qui est devenu très moche avec le temps.
Ouais.
Et deux questions. Est-ce qu'un chauffage électrique par le sol actuel est beaucoup plus performant qu'un chauffage posé il y a 30 ans?
Ouais.
Et deuxième question, c'est est-ce qu'on peut reposer un carrelage sur le carrelage existant pour la rénovation?
Alors, première question, est-ce que c'est, aujourd'hui c'est plus performant? Je vais vous dire, tout est plus performant aujourd'hui. Il est clair qu'en termes notamment de régulation et de programmation, c'est beaucoup plus fin. Alors ça dépend aussi, j'imagine que vous devez avoir une dalle commune peut-être à plusieurs pièces, non ?
Oui, oui.
Voilà. Donc vous comprenez que évidemment la modulation en fonction de l'utilisation des pièces n'est pas très facile. Vous avez peut-être plusieurs trames. Non.
Il y a plusieurs réseaux. Il y a plusieurs réseaux dans le câblage. Il y a trois câblages différents.
Voilà, vous avez trois trames. Donc, moi, j'ai eu ce type d'installation encore il y a pas très longtemps dans un bureau, un grand bureau. Il y avait 200 mètres carrés de surface de bureau. Et le principal problème que vous rencontrez, c'est l'inertie. C'est-à-dire que évidemment, quand d'un seul coup il se met à faire plus doux et que vous aviez votre dalle qui a chauffé depuis un mois, avant qu'elle se refroidisse, vous avez le temps de passer en maillot de bain dans le salon, quoi.
Donc oui, ça.
Et inversement, si en plus vous avez j'imagine que vous avez une sonde extérieure, et inversement, oui. Quand il fait froid, avant que ça remonte. Alors le conseil, moi, là-dessus que je vous donne, c'est ne rien toucher à la programmation une fois qu'elle a été faite. C'est-à-dire, c'est pas la peine de dire je vais pousser la dalle, parce que le temps que ça réagisse, de toute façon, le coup de froid sera peut-être passé. Faut pas jouer au yo-yo, si vous voulez. Ne touchez à rien. Ça, c'est la première des choses.
Oui.
Alors après, la question du revêtement. Bon, il faut un revêtement qui est transmette le plus facilement la chaleur, donc qui est en quelque sorte une résistance la plus faible à la transmission de la chaleur. Et vous l'avez constaté, vous avez un carrelage. Alors le problème du carrelage que vous avez, si vous deviez l'enlever, vous avez toutes les chances d'abîmer vos résistances de la dalle chauffante. Donc il faudrait évidemment envisager plutôt. Alors il y a des revêtements de sol aujourd'hui qui sont dits compatibles plancher chauffant. Bon, moi je suis extrêmement réservé là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir vous pouvez mettre dessus du bois, parce que un parquet bois de 8 mm d'épaisseur maximum, et il doit être collé à ce moment-là. Il y a des revêtements stratifiés qui sont dits chauffage au sol. Il y en a quelques-uns qui sont véritablement acceptables, mais pas tous, hein. Donc il faut être prudent. Et sinon, vous avez évoqué ça en départ, remettre un carrelage sur le carrelage. Et là, vous pouvez mettre des carrelages slim, quelques millimètres d'épaisseur, et ça ira très bien. Simplement, il faut que ce soit bien préparé. Peut-être mieux le faire par un carreleur, parce qu'en plus le slim, c'est un carrelage très fin. Donc si vous avez des portes à faux, il risque souvent de casser. Mais sinon, c'est jouable.
Oui, la préparation du support, elle est importante là.
Bonne préparation du support, agréage, parce qu'en plus, il y a évidemment des joints entre certainement les carreaux de votre carrelage actuel qui pourraient créer des porte-à-faux. Mais oui, c'est tout à fait jouable, et c'est le carrelage qui reste le meilleur des produits dans ce cas-là.
Merci beaucoup, Mathieu. Christian, 7h21, on va retrouver la météo et on revient. On va attaquer notre dossier de ce samedi matin. On va parler du chauffage gaz. Voilà. Les appareils, les systèmes, avantages, inconvénients. Est-ce que c'est économique, le chauffage gaz? Et puis, que va-t-il se passer mi-2021? On en parlait la semaine dernière. Est-ce que le chauffage gaz va être effectivement interdit sur les habitations neuves? On en parle avec notre invité, Emmanuel Bavou, qui est de la direction et du développement des marchés grand public de GRDF. Et vos questions sur ce sujet, sur le chauffage gaz, dès maintenant, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute. À tout de suite.
Leclerc.
Profitez du Black Friday pour préparer dès maintenant les fêtes, vos cadeaux de Noël ou tout simplement pour vous faire plaisir à prix Leclerc.
Du 3 au 5 décembre, bénéficiez de 40% de tickets Leclerc sur les vêtements et chaussures pour les femmes, hommes et les enfants. Oui, vous avez bien entendu, 40%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors vêtements bébés, pantoufles, bottes de pluie et après-ski. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Ensemble, respectons les gestes barrières.
Vas-y, plein gaz, Napoléon.
Jusqu'à 8h.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Un problème de chauffage?
Qu'est-ce que tu fabriques là? T'installes le gaz ou quoi?
Votre maison.
Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous.
François Sorel.
Toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
Christian Pessé.
Ça sent le gaz. Ça sent le gaz.
Ah oui, si ça sent le gaz, il faut fuir, non, Christian?
Mais vous savez, le gaz ne sent rien.
Oui, oui, en fait, on a rajouté cette odeur spécifique pour qu'on puisse le détecter.
Voilà, c'est cela.
Alors attendez, juste en introduction, ça sent le gaz, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ouvrir les fenêtres. C'est la première,
c'est la première chose à faire.
Voilà. Ne pas appuyer sur un interrupteur.
Non.
C'est notre.
Ne pas allumer une bougie.
On va voir aussi que le gaz naturel, normalement, souvenant des quantités très importantes, ça saute pas aussi facilement que ça.
Ça saute pas aussi facilement que ça. Alors, on va parler du chauffage gaz.
On va parler du chauffage gaz avec Emmanuel Bavou, donc, qui est de la direction développement de GRDF. Bonjour.
Bonjour, monsieur Bavou.
Alors, dites-moi déjà GRDF, parce que on avait GDF. GRDF, c'est quoi?
Alors GRDF, c'est le distributeur de gaz. Donc nous, dans le monde du chauffage, c'est pratique parce qu'on ne vend rien. Finalement, on s'occupe d'acheminer le gaz pour les ménages français.
D'accord, vous êtes les tuyaux, vous ne vendez pas de chaudière. Hein.
Non, on ne vend pas de chaudière.
Ce matin, vous n'allez pas faire la pub pour vendre quelque chose. Donc exactement. Vous êtes là complètement donc dégagé de ces contraintes. Alors, la première question que je vous poserais, c'est quoi aujourd'hui le gaz? Parce que on a parlé gaz de ville, gaz de coque autrefois, on a parlé gaz naturel, maintenant on commence à parler de gaz vert, on parle de butane, de propane, on s'y perd un petit peu dans tout ça.
Alors vous avez tout d'abord les deux familles de gaz butane, propane qui sont distribués dans des réservoirs stockables. Et puis ensuite, vous avez le gaz de réseau. Le gaz de réseau, c'est le gaz naturel aujourd'hui en France qui vient de Norvège, des Pays-Bas, de Russie, d'Algérie. Il est importé soit par gazoduc, soit par méthanier, donc par la mer. Et puis, vous avez une nouvelle génération de gaz vert qui est en train de voir le jour sur le marché français.
Et ça, qui est issu de la méthanisation, c'est ça? Alors c'est quoi la méthanisation? C'est le, j'allais faire la comparaison avec le tas de fumier d'autrefois devant les fermes, quoi. On voyait se dégager du gaz, c'est un peu ça?
Tout à l'heure, il y avait votre émission Jardinage. Je pense qu'il parle souvent de compost.
Oui.
La méthanisation, c'est un peu le même principe. D'accord. C'est-à-dire qu'on va utiliser des déchets agricoles et puis les mettre dans un méthaniseur qui va ensuite produire un gaz, du gaz qui va être ensuite injecté dans le réseau. Et puis, vous allez aussi avoir un digesta, ce digesta qui va servir d'engrais biologique utilisé par les agriculteurs.
Ok, alors on va pouvoir en vendre à Patrick Mulan pour une prochaine émission, quoi.
Alors, l'idée, Christian, là, c'est d'évoquer un peu les appareils, les systèmes, les avantages et inconvénients du chauffage gaz. Est-ce que c'est économique aussi? Et bien sûr, vos questions, puisque voilà, notre invité est là pour ça, pour répondre à toutes vos questions sur le chauffage gaz. N'hésitez pas. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et Jean-Paul nous attend et on l'accueille tout de suite. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Voilà ma question. J'ai une chaudière d'une marque française construite à Meaux qui a une vingtaine d'années, qui va bientôt être à remplacer.
Ouais.
Et vu l'interdiction des chaudières dans les chauds-gaz dans les nouvelles constructions, je me demande s'il faut remplacer par une chaudière gaz ou par une pompe à chaleur, parce que je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on aura encore des pièces détachées pour les chaudières gaz, vu qu'elles vont être supprimées plus, au fur et à mesure.
Alors vous plantez tout de suite le décor la droite ligne de mon coup de gueule de la semaine dernière.
J'étais tout à fait d'accord avec vous.
Merci. Emmanuel Bavou, alors question simple, réponse simple.
Le gaz n'est pas interdit. C'est ça la réponse.
Oui.
On a parlé effectivement du logement neuf, où il y a de prochaines échéances, à partir de 2021 en maison individuelle, puis 2024 en logement collectif, où les contraintes pour l'ensemble des solutions énergétiques vont évoluer. Il ne s'agit pas uniquement du gaz, mais l'ensemble des solutions énergétiques devront émettre moins de gaz à effet de serre dans le futur qu'aujourd'hui. Et on espère, bien entendu, que parmi les solutions gaz hybrides qui fonctionnent à la fois avec du gaz, mais aussi avec un appoint en énergie renouvelable, comme les packs hybrides dont on va sans doute parler, seront, on l'espère, demain, des solutions qui verront se perdurer le gaz dans le logement neuf. Avec, en plus, ce qu'on évoquait juste avant, le gaz vert. à l'horizon 2050, on envisage un scénario de l'Agence de l'environnement envisage jusqu'à 100% de gaz vert dans les réseaux. Donc cette énergie se verdit, les systèmes évoluent, émettent de moins en moins de gaz à effet de serre pour être compatibles avec la transition écologique. Donc pour répondre à monsieur, vous êtes déjà dans le logement existant. Tout ce qui a été annoncé ne concerne pas le logement existant.
Voilà, c'est les nouvelles habitations.
Exactement, hein, c'est les constructions de nouveaux logements à compter de 2021. Et donc, dans le logement existant, les pouvoirs publics soutiennent toujours l'installation de chaudières gaz. Pour
avec
preuve,
MaPrimeRénov',
il existe
hein.
MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, une TVA à 5,5, un éco-prêt à taux zéro, bref, tout un dispositif pour vous encourager à remplacer votre ancienne chaudière par une nouvelle chaudière et faire des économies d'énergie.
Alors, la question portait aussi à dans 20 ans. Alors bon, dans 20 ans, il y aura de toute façon certainement changé le système de chauffage, enfin en tout cas changé son matériel. Donc, sur le fait que, est-ce qu'on continue à faire du développement? Est-ce que, je pense par exemple aux chaudières à haut rendement avec la condensation, est-ce que Jean-Paul peut craindre qu'il n'y ait plus de pièces détachées? C'était sa question précise.
Alors ça, c'est le fabricant qui pourra répondre à cette question.
C'est pas vous.
En tout cas, il y aura du gaz dans les réseaux dans 20 ans, puisque, comme je vous le disais, on prévoit de remplacer ce gaz d'origine fossile par du gaz vert. Et donc, dès le début de l'année prochaine, on aura plus de 200 sites de méthanisation qui vont injecter du gaz vert. Donc, la chaudière neuve qu'il va installer sera compatible également avec ce gaz vert qui progressivement irrigue l'ensemble des réseaux.
Et donc il peut installer aussi une chaudière on va parler de PAC parce qu'on ne sait jamais si c'est la chaudière qui est hybride ou si c'est la PAC, la pompe à chaleur. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est assez confidentiel, mais ça va marcher.
Juste une petite question, est-ce que le chauffage gaz pollue beaucoup
en termes d'émissions?
Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il faut voir la question liée à l'énergie, mais aussi aux équipements. Aujourd'hui, ces équipements consomment de moins en moins d'énergie, donc rejettent de moins en moins de gaz à effet de serre. Et comme je vous le disais, progressivement, le gaz devient vert et donc son taux d'émissions de carbone baisse. La pollution, ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a d'autres critères. Et donc, quand vous entretenez correctement votre chaudière à gaz, vous allez aussi localement vous assurer de ne pas polluer l'environnement.
Bien sûr.
Oui. Donc aujourd'hui, le gaz naturel est une solution parmi les énergies traditionnelles qui est la plus respectueuse de l'environnement. Et c'est une solution qui, en plus, est en train de faire sa mue, sa transition vers un gaz encore plus.
C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, Christian. Plus on a une chaudière récente, moins elle va polluer. On est d'accord.
Alors, plus on a une chaudière récente, plus on a un intérieur bien isolé.
Et oui, parce que ça, on aussi, en aura moins besoin.
Ça, si vous avez une maison qui est une passoire thermique, même si vous changez avec une chaudière de dernière génération, quelle que soit son énergie, eh bien, vous ferez du gaspillage.
Nous avons Catherine au 32-16. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
De Carnoux.
Merci de me prendre à l'antenne.
On vous écoute.
Voilà, mon problème, c'est probablement un changement de chaudière parce que j'ai une frisquée donc à condensation qui remonte à plusieurs années, je dirais même.
Catherine, on parlait bien dans le téléphone, Catherine, on ne vous entend pas bien.
Bien, très bien entretenu tous les ans, etc. Et peut-être qu'il faudrait penser à la changer avant de voir des grosses pièces. On a eu quand même des petits changements de moteur, de ballon d'expansion qu'on a dû rajouter, etc. Et en parlant avec le chauffagiste, je voulais éventuellement une chaudière hybride, c'est-à-dire pompe à chaleur et gaz. Bon, il m'a dit qu'il faudrait beaucoup de place. J'ai une lingerie, mais apparemment, il n'y aurait pas assez de place. Et donc, je voudrais continuer sur le gaz, mais voilà, problème.
Est-ce que vous
de continuer au gaz?
Bien sûr.
Étant entendu que j'ai un côté de la maison qui est en chauffage avec des radiateurs pour tous les côtés chambre et tout ce qui est entrée, salon, c'est chauffage par le sol.
Vous avez l'idéal en termes d'installation. Est-ce que vous connaissez la puissance en gros de votre chaudière combien vous avez de radiateurs?
Sans compter le chauffage au sol, les radiateurs, 3, 4, 5,
6, 7.
D'accord. Bon, c'est pas donc une très très grosse installation. Il y a des solutions compactes en hybride.
Oui, effectivement. Ce qu'il faut voir, c'est que là, sur une pompe à chaleur hybride, vous allez avoir une partie de l'équipement à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Donc l'unité extérieure, par nature, elle va pas prendre de place à l'intérieur du logement. Quant à l'unité intérieure, elle prend la place d'une chaudière, notamment une chaudière au sol. Donc reste à voir quelles sont les conditions précises dans ce logement pour installer au mieux la chaudière. Mais la PAC hybride sera certainement une solution intéressante pour vous, madame. Moi, mon conseil sur une pompe à chaleur hybride, c'est tout d'abord de faire venir un chauffagiste pour faire un calcul des puissances et d'installer une pompe à chaleur hybride avec une puissance pour la partie pompe à chaleur entre 4 et 6 kilowatts, qui va vous permettre d'avoir un équipement à coût très compétitif, de bénéficier d'un maximum d'aides. Sachez, madame, que vous avez le droit d'aides qui sont conséquentes pour une pompe à chaleur hybride en fonction de vos niveaux de revenus. Ça peut aller jusqu'à près de 7 000 à 8 000 euros qui vont être prises en charge par les pouvoirs publics, notamment. Et donc, avec une PAC hybride, vous pourrez automatiquement choisir la bonne énergie au bon moment et donc la plus compétitive.
Alors, je vais quand même rappeler, parce qu'on parle pompe hybride, mais qu'est-ce que c'est qu'une pompe hybride ?
Qu'est-ce que c'est, oui.
Alors, une pompe hybride, c'est un assemblage, je dirais, d'une chaudière gaz et d'une pompe à chaleur qui, comme vous le savez, est un dispositif qui est extrêmement performant puisqu'il puise des calories dans l'air à l'extérieur. En gros, dans un rapport de 1 à 4 ou 1 à 5, c'est-à-dire quand vous dépensez 1 kilowatt pour faire fonctionner votre chaudière, eh bien, vous en restituez 4. Donc, c'est assez magique et c'est pour ça que c'est très intéressant. Le seul bémol, c'est que quand il fait très froid, eh bien, le rendement de la pompe à chaleur baisse. Et c'est normal parce qu'il y a moins de calories dans l'air. Et on arrive à un moment où pratiquement elle continue à chauffer, mais elle va être dans un rapport de 1 à 1, ce qui veut dire que ça devient beaucoup moins intéressant. En revanche, là, en dessous, quand on va être, par exemple, dans une situation où on va être sur des températures négatives, eh bien, là, c'est la chaudière, la chaudière gaz qui prend le relais au moment où elle est effectivement la plus efficace et où l'énergie est économique. Donc, on va avoir le meilleur des deux. Mmh. On a le meilleur de la PAC et le meilleur de la chaudière gaz.
On revient dans un instant avec notre invité. On parle du chauffage gaz ce matin. On va encore aborder le sujet pendant quelques minutes. Profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
8h moins le quart. On va terminer ce rendez-vous maison et poursuivre ce dossier sur le chauffage gaz avec Christian Pessé, notre invité Emmanuel Bavou, qui représente donc la GRDF. Christian, tiens, la question de Brigitte. Est-ce que ma chaudière actuelle sera compatible au gaz vert dont on parlait tout à l'heure ?
C'est une très bonne question, Emmanuel Bavou.
Donc les nouvelles chaudières sont toutes compatibles avec le gaz vert. C'est un gaz qui est de la même nature que celui qui est distribué actuellement.
Donc les anciennes aussi.
Donc les anciennes aussi. Alors après, il y a fort à parier que dès lors que la personne va avoir du gaz vert qui va être à côté de chez elle, elle aura peut-être changé son équipement.
Oui.
Donc les chaudières, le gaz vert, c'est le même gaz que celui qui coule actuellement dans nos réseaux.
D'accord, donc pas de souci de ce côté-là. Alors, on peut peut-être parler prix aussi, parce que le gaz, il a augmenté, il vient d'augmenter. Est-ce qu'il va continuer à augmenter? Et pourquoi il augmente? Et est-ce que donc le chauffage gaz, finalement, c'est économique?
Le chauffage gaz reste compétitif. Et je vais vous apporter un chiffre qui en donne la preuve. Il est 20% moins cher actuellement, le gaz, qu'il y a un an, au mois de janvier 2019. Et il faut aussi regarder les tarifs sur la durée, parce que finalement, se concentrer à un moment, ça n'a pas de sens dès lors qu'on ne fait pas le plein.
Sauf que c'est à ce moment-là qu'on paye. Hein.
On paye avec la moyenne des prix qui ont été constatés sur la période passée. Et donc, sur les 15 dernières années, les personnes qui ont fait le choix du gaz ont une énergie qui est entre 20 à 50% moins chère que les autres énergies conventionnelles. Donc, ils ont fait le bon choix. Et un dernier point essentiel, vous savez qu'aujourd'hui, on a le droit de choisir son fournisseur de gaz.
Oui, il y a la compétitivité qui peut jouer.
Il faut faire jouer la concurrence. Il s'exerce, il y a une cinquantaine de fournisseurs qui sont actifs sur le marché français et vous avez des différences de prix, mais surtout, vous avez aussi des tarifs bloqués dans la durée, pour certains jusqu'à 4 ans.
Il va y avoir la fin du tarif réglementé aussi.
Oui, c'est annoncé pour 2023. Ça va avoir un effet dynamisant pour la concurrence et faire émerger de nouvelles offres avec des prix fixes, avec des prix indexés, mais aussi avec des offres de gaz vert.
D'accord. Pour finir, il y avait autrefois des radiateurs à gaz. Alors, c'est remplacé par quoi aujourd'hui? Parce que ça existe aussi, chauffer directement.
Ça existe toujours, ces radiateurs à gaz. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération d'appareils indépendants à gaz est incarnée par les poêles et les cheminées au gaz, qui sont des équipements à la fois performants, avec des rendements élevés, mais aussi des équipements qui ont un design qui est quand même un peu plus à la page que les vieux radiateurs indépendants.
Et c'est vrai que le côté est assez bluffant aujourd'hui, l'imitation de la flamme avec les bûches. Et moi, je pense que c'est en ville, notamment, je pense à Paris, il y a quantité de belles cheminées qui ne fonctionnent plus. Et ça, c'est une solution. On a une idée des prix, c'est quand même relativement cher, hein, il me semble.
Alors, tout dépend si vous installez un poêle. En poêle, on va trouver à partir de 3000 euros un poêle à gaz. Et les cheminées gaz, il faut compter des budgets supérieurs comparables à ceux d'une cheminée à bois, d'ailleurs.
D'accord, mais ça chauffe aussi bien. C'est pas du bioéthanol.
Ça n'est pas un instrument de décoration, c'est un équipement de chauffage performant.
Emmanuel Bavou, merci beaucoup.
Merci.
Allez, on enchaîne avec vos questions. Issa est avec nous au 32-16. Bonjour Issa.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, j'appelais pour deux choses. On a un projet de construction. On avait signé avec un constructeur indépendant. Trois mois après, il était en redressement judiciaire. Trois mois après, il était en liquidation judiciaire. Donc, du coup, on a perdu une somme avoisinant les 75 000 euros.
Aïe. D'accord.
Et on a l'impression qu'il n'y a aucun recours possible. Moi, quand j'ai appelé le liquidateur, il m'a dit... vous avez zéro chance de récupérer 0 euros.
Non, mais attendez. Vous avez signé un contrat de CMI, ce contrat de...
C'est un constructeur indépendant, c'est pas un...
Non, le fait qu'ils soient indépendants, tous les CMistes sont indépendants. Donc,
d'accord, mais lui, c'est pas un CMiste.
Alors, vous illustrez le fait que aujourd'hui, quand on veut faire construire, on fait construire par un contrat avec un CMiste, avec un contrat qui inclut un garant.
Un CMiste, on explique ce que c'est, Christian.
Constructeur de maison individuelle, CMiste. Et qui inclut un garant, qui est donc une banque en général, évidemment, ou une assurance. Et donc, lorsqu'il y a ce genre de pépin, vous récupérez votre argent. Donc, effectivement, là, si vous êtes au niveau de la liquidation judiciaire, vous êtes confronté à effectivement la loi commune, qui fait que malheureusement, vous ne pourrez rien récupérer, sauf s'il y avait des solvabilités suffisantes. Mais si le liquidateur vous a dit que c'est zéro, c'est ça. Parce que vous apportez un témoignage accablant sur les risques à faire construire souvent par une petite structure, pas forcément solvable, ou différentes entreprises, c'est extrêmement risqué.
D'accord. Et donc l'assurance qu'ils ont décennale et tout ça, elle n'intervient pas du tout.
Ah, ça n'a rien à voir, parce que l'assurance décennale, elle est pour la qualité des travaux réalisés.
Et quand la maison est terminée.
Sur le gros œuvre, quand la maison est terminée. Donc là-dessus, vous l'avez... Bon.
Ok. D'accord.
Bon, vous aviez une deuxième question, je crois,
oui,
Issa.
Juste une petite question. Je voudrais savoir, est-ce que le plancher chauffant électrique au sol, donc, est conseillé ou pas?
Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon système, pas de problème, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on chauffe une dalle, si vous voulez. Et comme on chauffe une dalle, qui est une dalle en béton, il y a beaucoup d'inertie, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut ensuite la gérer de manière raisonnable, c'est-à-dire ne pas penser qu'on va pouvoir mettre un peu plus de chauffage, un peu moins de chauffage. Et il y a un temps de latence, d'une part pour chauffer, pour monter en température, et puis ensuite, quand il fait moins froid, on a souvent, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais très bon système. D'abord, ça, rien n'occupe de volume au niveau des murs, donc par rapport aux meubles, c'est une bonne solution. Attention de ne pas mettre des tapis épais, des choses comme ça, parce qu'on baisse évidemment l'efficacité du système. Et puis, c'est une chaleur agréable, parce qu'elle est très largement par rayonnement et pas par convection. Donc, je le disais tout à l'heure, j'ai expérimenté ça, moi, dans des locaux professionnels. C'était un très bon système.
Merci.
C'est un très bon système.
Merci, Issa, pour votre appel. Et si, tout comme Issa, vous voulez joindre Christian pour samedi prochain, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, toutes vos questions maison. Et on termine avec votre coup de gueule, Christian.
Oui. Oui,
on va parler des balcons.
Voilà, on va parler des balcons. Tout le monde se souvient de l'effondrement d'un balcon à Tours dans la nuit du 15 au 16 octobre 2016. 4 jeunes gens sont morts, 14 ont été blessés. Depuis, d'autres balcons se sont effondrés, faisant moins de victimes ou étant moins médiatisés. On en a moins parlé, mais il y a eu d'autres accidents, pas mal d'ailleurs. Alors, il y a eu une enquête qui a été diligentée par le juge d'instruction, qui avait conclu à de graves manquements aux règles de l'art de la construction. Le procès aura lieu certainement en 2021. On prend son temps dans la justice, mais c'est normal, le rythme de la justice est celui-là. Là où c'est moins normal, c'est que le ministère du Logement a commandé un rapport à la très sérieuse agence qualité construction, que je salue au passage. Il aura donc fallu attendre 4 ans pour boucler cette enquête qui a porté sur l'effondrement ou le risque de 190 balcons. Pour conclure quoi ? Eh ben, pour conclure qu'il y avait des malfaçons. Ah oui, ça m'arrête une évidence. Alors, on attend maintenant un deuxième rapport sur les recommandations. Alors, comme la cause la plus fréquente est la défaillance du ferraillage du béton, parce qu'il y a eu de l'humidité qui s'y est mise, il y a eu de la corrosion. Alors, l'Association française de certification des armatures béton, elle s'impatiente et elle réclame des mesures concrètes et notamment une certification. Je cite, l'urgence est là, les accidents continuent, n'attendons pas de nouveaux accidents et surtout des drames comme celui survenu à Angers en 2016. Je pense qu'il était essentiel de relancer à l'antenne vraiment de dire qu'il faut remettez-vous le cul, mais nom de Dieu, hein, bon, j'ai été vulgaire.
Enfin,
c'est pas
devant
possible.
Devant l'entravité de GRDF.
Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des balcons qui vont encore se casser la gueule. Pardonnez-moi l'expression, je suis parti dans la vulgarité.
Ah oui,
mais il faut faire quelque chose. 4 ans déjà pour faire une enquête, pour conclure qu'il y avait des malfaçons, ce qu'on savait quelques mois après par le juge d'instruction.
Vous pouvez le débrancher, voilà. S'il vous plaît, Christian. Est-ce que vous pouvez le
Et maintenant, on va prendre
l'anesthésier
mais
quelques
non, on va
secondes,
passer 4
c'est
ans
possible.
Pour savoir ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il faut faire.
Donc on a bien compris, c'est pas Noël au balcon, Christian.
Je le dis, dans le confinement, faites très attention, ne surchargez pas vos balcons.
Voilà. Christian PC, merci. Dans un instant, Christian Ricca qui prend le relais. On est un petit peu en retard. On va retrouver évidemment la forme, la santé. On va parler de posture au travail et on va renforcer notre système immunitaire. À tout de suite.